Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. On va parler déplacement dans la revue de presse ce soir. Déplacement des mentalités. Tout d'abord, le dimanche 20 mars, nous apprend Brigitte Salino dans Le Monde, un débat aura lieu au Théâtre National de Strasbourg, le TNS, sur le thème quotas, discrimination positive, quels outils pour la diversité dans le spectacle vivant. Ce ne sera pas un débat de plus, mais le point d'orgue de premier acte, une action chère à Stanislas Nordet qu'il a instituée en 2013 au Théâtre National de la Colline, où il était artiste associé avant de devenir directeur du TNS en 2014 et dont nous avions déjà parlé ici. Premier acte réunit des jeunes issus de la diversité qui font du théâtre dans des cours ou des associations et qui voudraient devenir comédiens. Stanislas Nordet, qui fait partie du Collège de la diversité créé par Fleur Pellerin quand elle était ministre de la Culture et de la Communication, considère que son mandat de 5 ans à Strasbourg aura porté ses fruits s'il y a un véritable changement dans le public et parmi les élèves de l'école du TNS, une des plus prestigieuses de France. Avec son équipe, il s'y attelle, en travaille sur tous les fronts, création d'une autre saison, entre guillemets, qui propose des spectacles et des rencontres gratuits, développement des liens avec les acteurs sociaux, les collèges et les lycées, les associations. Cela s'est su et a déjà donné un résultat. En janvier a eu lieu le premier tour du concours d'entrée pour les élèves comédiens à l'école du TNS. Sur les 52 candidats, un tiers des reçus sont des jeunes gens et jeunes filles issus de la diversité. Ils n'ont pas été choisis par discrimination positive, mais parce qu'ils étaient bons et qu'ils se sont autorisés à se présenter. C'est ce point qui réjouit le plus Stanislas Nordet. Dans les lettres de candidature, beaucoup ont écrit qu'ils voulaient faire du théâtre, mais qu'ils pensaient que ce n'était pas pour eux, que l'école du TNS leur était interdite jusqu'au moment où ils ont entendu dire que c'était possible et même souhaité de se porter candidat. Actuellement, dans la promotion 43 qui compte 25 élèves en jeu, régie, scénographie, costume, mise en scène ou encore dramaturgie, 3 seulement sont issus de la diversité, une expression qu'on rêve de n'avoir plus à employer. Un déplacement encore des modes de représentation, cette fois on admet, écrit Eve Beauvallet dans Libération, une représentation de danse peut être un exercice de frustration sadique. Le spectateur est violemment assigné à un horaire qui, première embûche, coïncide avec celui de l'apéro, contraint par une convention qui l'incite à ne pas quitter la salle en cours de spectacle, enchaîné enfin à un fauteuil plus ou moins amical qui le maintient à distance respectueuse de la sueur et de la dépense physique des danseurs. À l'écoute de ces considérations prosaïques ou peut-être mues par une mission exploratoire, artistes et institutions semblent aujourd'hui soucieux de perturber ces conventions en testant d'autres, notamment celle de l'exposition. 20 danseurs pour le XXe siècle à l'Opéra de Paris, Work, Travail, Arbeit, d'Anne-Thérèse de Kersmacher au Centre Pompidou, Boris Charmatz au Musée de la Danse de Rennes et à la Tate Moderne de Londres, bientôt Jérôme Bell qui investira le MoMA et Tino Segal le Palais de Tokyo. De la simple présentation de pièces préexistantes à la production d'œuvres in situ, les chorégraphes semblent multiplier les expériences muséales. Certes, quoi de vraiment nouveau quand on se souvient que de l'autre côté de l'Atlantique, les maîtres de la post-modern dance américaine comme Trisha Brown ou Simone Forti ont mené dès les années 60 et 70 des expériences novatrices au Whitney Museum ou au MoMA. Notons aussi que l'art contemporain, marqué par sa permissivité et sa voracité envers les autres disciplines, redécouvre depuis une dizaine d'années ce champ de la performance du live qu'il avait délaissé depuis les années 70, un mouvement qui s'inscrirait plus généralement dans le passage à une économie de l'expérience, type on ne te vend pas un café, on te vend une aventure à vivre. Pour les chorégraphes, le gain est loin d'être financier. Les lieux d'art diffusent mais ne produisent que rarement la danse. Ma compagnie ne pourrait pas vivre économiquement en tournant uniquement dans les galeries ou dans des fracs, car les conditions techniques et financières sont précarisantes, souligne Mylène Benoît, chorégraphe venue des arts visuels. Néanmoins, elle dit vouloir développer ce type de projet qui représente à l'heure actuelle 10% de son activité, avant tout parce que le changement de contexte est passionnant, explique-t-elle, aussi parce que paradoxalement, les interlocuteurs ont parfois une vision moins caricaturale de la danse que celle des professionnels de notre secteur. Ensuite, parce que l'on s'adresse à un autre public et autrement au public, celui-ci étant dès lors plus ouvert sur ce que doit être la danse lorsqu'il tombe sur une performance dans une galerie. La dernière motivation n'est pas des moindres, la diffusion de la danse est en berne aujourd'hui et je suis persuadé que les espaces d'art peuvent devenir un endroit de diffusion supplémentaire. Alors les musées, nouveaux territoires, autant que nouvel espace économique, il y a bien sûr une logique, les chorégraphes ont besoin de nouveaux débouchés et montrent leur capacité d'adaptation adaptation à de nouveaux réseaux, acquiesce Patrick Germain-Thomas, professeur d'économie de la culture. Surtout, n'oublions pas que l'enjeu du public, de la médiation de la danse reste une grande problématique et qu'elle est partagée par le milieu de l'art contemporain. Reste que la production originale de performance pour les espaces d'exposition est pour l'heure monstrueusement chère. Avec 40 danseurs, quelques 150 acteurs, la prochaine exposition de Tino Segal coûte le triple d'une exposition d'art visuel, précise Jean de Loisy du Palais de Tokyo. Mais on le fait parce que c'est passionnant. Et Catherine Wood, curatrice à la Tate Modern, de conclure, tout l'enjeu aujourd'hui pour des institutions comme la nôtre est de trouver la manière de faire entrer la danse dans le modèle économique du musée. On y travaille et c'est déjà bien.